VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriac.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition du 10 juin 2015. À la une ce soir.
C'est officiel au Burundi. Les scrutins législatifs et présidentiels auront lieu le 29 juin et le 15 juillet.
Signature aujourd'hui en Égypte d'un important accord de libre-échange entre 26 pays africains.
Dossier à suivre, le trafic des êtres humains et le travail des enfants au Cameroun.
Et le Vatican a entendu les cris de ses fidèles contre l'impunité dans les cas d'abus sexuels. Un tribunal vient d'être créé pour juger les présumés coupables.
Il n'est plus question de parler d'un prêtre, d'un évêque lui-même impliqué dans les abus sexuels. Là maintenant, la règle, la norme en vigueur, c'est la mise à l'écart pure et simple.
On en saura davantage avec un journaliste de Radio Vatican.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Le président burundais Pierre Nkurunziza a signé ce mercredi le décret pour la publication du nouveau calendrier électoral. Désormais, les élections législatives et communales auront lieu le 29 juin et la présidentielle le 15 juillet. Nicolas Pinault.
Le décret a été publié ce mercredi et appelle aux urnes tous les citoyens burundais remplissant les conditions requises par la loi. L'élection des sénateurs au scrutin indirect aura lieu le 24 juillet, selon le texte. Ce nouveau calendrier suit ainsi les recommandations de Dar es Salaam. Les chefs d'État de la sous-région avaient alors recommandé un report de 6 semaines des élections au Burundi, en proie à une contestation contre un possible troisième mandat de Pierre Nkurunziza. L'opposition et la société civile burundaise dénoncent toujours une rupture des accords d'Arusha et de la Constitution. Faux, répondent les partisans du président, qui devrait, sans réel adversaire, être réélu aisément le 15 juillet prochain. Reste à savoir dans quelles conditions ce scrutin va se dérouler, puisque des membres de la commission électorale ont démissionné, l'Union européenne a suspendu sa mission d'observation, tout comme l'Église catholique burundaise qui a retiré tous ses membres des CENI locales. Autre défi financier, l'État burundais a lancé une souscription nationale car les partenaires internationaux comme la Belgique ont gelé le financement du processus électoral en signe de protestation. Ce mercredi est encore resté calme dans Bujumbura. Les quartiers contestataires étant toujours quadrillés par la police.
Nouvelle violence dans le nord-est du Nigeria. 3 femmes kamikazes se sont fait exploser alors qu'elles se rendaient dans la capitale régionale Maïdougouri. Il n'y avait pas eu de victimes, indique la police, citée par l'AFP.
Une attaque a également été signalée au Mali la nuit passée. Cette fois-ci, c'est le sud du pays qui est frappé. Selon un élu local, cité par l'agence France Presse, une trentaine de djihadistes présumés ont ouvert le feu sur le camp militaire de Misseni, près des frontières ivoiriennes et burkinabées. Au cri d'Allahu Akbar, ils auraient tué un gendarme et pris le contrôle du camp où ils ont mis leur drapeau noir, a précisé l'élu. Les terroristes ont lâchement tué l'adjudant Bassiaka Kone, a affirmé à l'AFP un ministre sous couvert d'anonymat.
Tension politique en République démocratique du Congo. Martin Kobler, le chef de la MONUSCO, propose ses bons offices pour permettre un dialogue national en vue d'élections apaisées. Cette médiation de l'ONU entrerait dans le cadre posé par la résolution 2211, approuvant en mars et autorisant la MONUSCO à promouvoir un dialogue politique en RDC. Elle ne sera possible que si la constitution congolaise est respectée, précise le chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC.
Je salue alors le gouvernement, le président, de lancer les consultations parce que c'est la chose qu'on a fait. Le président, il a convoqué les groupes sociaux, les églises, aussi les partis politiques et pour avoir des consultations. Je crois qu'il veut aussi parler avec la communauté internationale en ce qui concerne maintenant les bons offices. En anglais, on dit alors « it takes two to dance a tango », il faut 2 personnes pour danser. C'est quelque chose... Nous avons offert nos bons offices, mais il faut avoir le consentement des 2 parties. Ça ne marche pas si on impose, on ne peut pas imposer les bons offices. Nous sommes prêts ici, nous sommes impartials, mais nous ne sommes pas neutres. Nous sommes basés sur la résolution 2211. Nous avons le principe de constitutionnalité du calendrier électoral menant jusqu'aux élections au novembre 2016. Nos bons offices, nous sommes prêts à le faire, mais il faut avoir aussi les autres. Normalement, nous allons avoir une réunion aussi, communauté internationale, avec le chef de l'État, et puis on pourra discuter ces choses.
Martin Kobler, chef de la MONUSCO.
République démocratique du Congo toujours, les militants du mouvement Filimbi, arrêtés mi-mars à Kinshasa, n'avaient vraisemblablement aucune visée terroriste. C'est ce qu'indique un rapport d'enquête parlementaire appelant la justice à statuer rapidement sur deux d'entre eux encore détenus. Souvenez-vous, une trentaine de personnes, parmi lesquelles les activistes sénégalais et burkinabés, avaient été arrêtés lors d'une réunion d'échange sur la bonne gouvernance.
Les dirigeants de 26 pays d'Afrique de l'Est et Austral ont signé aujourd'hui en Égypte un traité de libre-échange. L'accord englobe la moitié orientale du continent et doit faciliter la circulation des biens et des marchandises. La tripartite est une nouvelle donne pour l'économie africaine, nous explique Salwa Jafari.
Après 5 ans de négociations, la tripartite voit enfin le jour. L'accord est historique. L'Union européenne pourrait bientôt perdre son titre de plus grande zone de libre-échange du monde en termes de population. 26 des 54 pays africains sont partants, soit 625 millions d'habitants et plus de 1 000 milliards de dollars de PIB. C'est dire l'ampleur de ce traité. Du Cap au Caire, la tripartite englobera l'Afrique du Sud et l'Égypte, les deux économies les plus développées du continent, ainsi que des pays dynamiques comme l'Éthiopie, l'Angola, le Mozambique et le Kenya, mais pas le Nigeria, premier PIB d'Afrique. Seulement 12% environ des échanges commerciaux en Afrique ont lieu entre pays du continent. Les conflits inhérents aux pays africains et l'épaisseur des frontières sont à blâmer. Le nombre de documents qu'il faut fournir pour importer ou exporter ralentissent les échanges. L'accord d'aujourd'hui a donc pour but d'inverser ces tendances. Il traduit la volonté des États de travailler sur leur intégration économique et à créer un environnement favorable pour le commerce. Les 26 ont toutefois du pain sur la planche. Il faudra attendre plusieurs mois avant que ne se concrétise véritablement la tripartite. Le traité devra être ratifié dans les 2 ans par les parlements des 26 pays.
Un attentat suicide a été déjoué en Égypte. Il visait le temple de Karnak à Louxor, un site touristique. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais les djihadistes sont suspectés. D'après le gouvernement, les assaillants ont essayé de s'introduire dans le temple et ils ont dû s'arrêter à un poste. Lorsque la police leur a demandé d'ouvrir leur sac, l'un des hommes s'est enfui et a déclenché sa veste bourrée d'explosifs. Les policiers ont immédiatement ouvert le feu, tuant l'un et blessant grièvement l'autre à la tête.
La Trokossi, une pratique séculaire du sud du Ghana, dans le collimateur de l'ONU. Un comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant dénonce la persistance de cette tradition, selon laquelle des petites filles vierges sont offertes comme esclaves à des religieux. En dépit de son abolition en 1998, cette pratique demeure courante dans la tribu Ewe.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le gouvernement américain a confirmé ce mercredi l'envoi de 450 nouveaux formateurs militaires environ en Irak afin de renforcer les troupes irakiennes dans leur projet de reconquête de Ramadi, ville prise le mois dernier par les djihadistes. Ces 400 soldats vont s'ajouter à 3100 militaires américains déjà sur le terrain, bien que le président Barack Obama ait écarté l'idée de déploiement de troupes de combat en Irak après les avoir retirées en 2011.
Le mouvement chiite libanais Hezbollah est maintenant engagé dans la lutte contre le groupe sunnite État islamique, a annoncé le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Dans un discours que cite l'AFP, Nasrallah a déclaré que la bataille contre Daesh a commencé à la frontière entre la Syrie et le Liban. Il a fait état, selon la même source, de violents combats au cours desquels des dizaines de djihadistes auraient été tués. Il n'a pas précisé les pertes subies par les combattants du Hezbollah.
L'agence européenne Frontex, chargée des frontières extérieures de l'espace Schengen, va renforcer sa mission en Grèce en raison du grand nombre de migrants fuyant la Syrie. Nathalie Barche.
Le directeur de Frontex, Fabrice Leggeri, a déclaré ce mercredi à Berlin devant la presse que l'opération Poséidon serait élargie dans les prochains jours, rapporte l'AFP. Cette mission de contrôle et de sauvetage en mer Égée entre la Grèce et la Turquie devrait s'étendre à d'autres îles grecques, alors que beaucoup de migrants arrivent à Lesvos et Kos. Le nombre d'officiers de frontières en Grèce sera augmenté, recommande à la Commission européenne M. Leggeri, ajoutant que ce pays a besoin de plus de moyens financiers pour héberger les migrants. Depuis début 2015, environ 50 000 entrées irrégulières ont été enregistrées en Grèce et quelque 55 000 en Italie, a dit le chef de Frontex. Selon le HCR, plus de 100 000 migrants sont arrivés en Europe par la mer Méditerranée et près de 1 800, dont des enfants, sont morts ou ont disparu lors de la traversée, indique l'OIM.
Le Premier ministre italien Matteo Renzi s'est entretenu aujourd'hui avec le président russe Vladimir Poutine en marge de l'exposition internationale de Milan. Pour M. Renzi, une amitié traditionnelle existe entre Rome et Moscou, mais ils ont des points de désaccord.
Monsieur Renzi parle ici d'une conjoncture internationale difficile où une mésentente persiste entre la Russie et la puissance occidentale.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Jean-Roger Billon.
Un nouveau chemin de fer va relier Djibouti et l'Éthiopie pour faciliter les échanges économiques entre les deux pays en pleine croissance. Le dernier rail de cette ligne sera posé jeudi par le président djiboutien et le premier ministre éthiopien avec l'ambition de la prolonger à terme jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. La voie ferrée en construction en direction d'Addis Abeba, capitale éthiopienne, doit permettre de réduire la durée du trajet entre les deux villes à moins de 10 heures. Les camions de marchandises mettent actuellement près de 2 jours pour effectuer le parcours sur une route montagneuse et surchargée. En République démocratique du Congo, la société britannique Soko est accusée par l'ONG Global Witness d'avoir acheté un officier congolais impliqué dans une série de violences contre les opposants au projet d'exploration pétrolière de la compagnie dans le parc des Virunga. L'organisation non gouvernementale britannique publie sur son site internet la reproduction de 4 chèques émis par Soko le 15 mai 2014 au bénéfice d'un major des forces armées de la RDC posté au sein de cette réserve naturelle de l'est du pays pour un total de 15 600 dollars. L'ONG Human Rights Watch dénonce ce mercredi dans un rapport l'utilisation des enfants dans les mines d'or du Ghana. La loi ghanéenne interdit le travail des enfants de moins de 15 ans, ainsi que le travail pénible et dangereux comme dans les mines pour les moins de 18 ans. Toutefois, le travail d'enfants de 9 ans n'est pas rare dans les petites mines qui opèrent très souvent dans l'illégalité. Ces mines représentent un tiers de la production du secteur, selon le rapport.
La Minute Éco avec Jean-Roger Billon. Merci.
Et maintenant, avec nous en studio pour la page sport, Nicolas Pinault. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Belle performance de l'Afrique à la Coupe du Monde des moins de 20 ans.
Oui, au petit matin, heure de Bamako, les Aiglons ont frappé très fort en éliminant le Ghana 3-0. Les hommes de Fanieri Diarra, supérieurs tactiquement comme dans le réalisme offensif, ont logiquement écarté les Black Satellites. Diadié, Samasekou, Dieudonné et Aboubakar Doumbia sont les buteurs maliens. Au prochain tour, les Maliens rencontreront le vainqueur du match Allemagne-Nigeria qui se joue la nuit prochaine.
Autre belle qualification à signaler, celle du Sénégal.
Les Lionceaux de la Teranga ont éliminé l'Ukraine à l'issue de la séance de tirs au but. À la fin du temps réglementaire et des prolongations, il y avait un partout. Le grand artisan de cette qualification se nomme Ibrahim Assi. Impérial dans son but, le portier a réussi à sortir 3 tirs au but ukrainiens lors de la séance de pénalty. Le Sénégal qui affrontera le vainqueur du match, Autriche-Ouzbékistan. Les autres résultats de la nuit, la qualification des Serbes et des Américains.
Parlons d'une autre Coupe du Monde, Nicolas, celle des femmes au Canada.
Hier, la France a battu l'Angleterre 1-0. Aujourd'hui, ce sera le choc Allemagne contre la Norvège. On va voir si les Ivoiriennes se sont remises de la correction 10-0 infligée lors du premier match. La Côte d'Ivoire qui affronte la Thaïlande. On n'oublie pas Chine, Pays-Bas et Canada-Nouvelle-Zélande.
La FIFA toujours ternie par le scandale de Potvin.
L'instance dirigeante du foot mondial a suspendu le processus d'attribution du mondial 2026. Une semaine après la démission de Sepp Blatter, la FIFA précise que des décisions seront prises lors d'un prochain comité exécutif extraordinaire en juillet. Le même comité exécutif qui devra fixer la date du prochain congrès électif prévu entre décembre et mars 2016, appelé à élire le successeur de Sepp Blatter.
En basket, la finale de la NBA, 3e match la nuit dernière, comment cela s'est passé?
Oui, Cleveland a signé sa 2e victoire consécutive face à Golden State, 96-91. Mardi soir, LeBron James a une nouvelle fois dominé les débats avec ses 40 points, 12 rebonds et 8 passes décisives. Mais l'euro de la soirée est son coéquipier bien moins connu, Matthew Della Vedova, l'Australien qui remplace au poste de meneur Kyrie Irving, blessé gravement au genou lors du premier match. Il a inscrit 20 points et incarne la rage de vaincre des Cavaliers que beaucoup donnaient perdants avant même le coup d'envoi de cette finale. Cleveland n'est plus qu'à 2 victoires.
Le monde aujourd'hui,
NBA.
VOA
voilà, Nicolas Pineau pour les sports.
Chez Robin Dorcy, les Morgan Guerriers, en votre compagnie, place au dossier du jour et première escale, Gabi, le Cameroun.
Oui, le...
Mais non.
Le trafic des êtres humains et le travail des enfants sont en baisse dans ce pays suite à la promulgation de lois draconiennes et à la traduction en justice des contrevenants. C'est ce qui ressort d'un rapport qui vient d'être publié à Yaoundé. Reportage du correspondant de la VOA, Moki Edwin Kenzeka, présenté par Idrissa Seloudia.
I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what.
Nadège Ngué, 28 ans, rend hommage au réseau des femmes du Cameroun, une association fondée il y a 25 ans en vue d'obtenir l'adoption de lois fortes sur le travail forcé et le trafic sexuel. Elle n'avait que 8 ans quand elle a été forcée de travailler comme bonne chez un haut fonctionnaire influent de Yaoundé, la capitale, en échange de l'équivalent de $20 mensuels promis à sa famille. Elle finit par s'échapper pour se faire ensuite prendre en charge par le réseau qui lui fournira aussi une formation. Aujourd'hui, elle est avocate et très engagée dans la défense des femmes qui traversent actuellement la même épreuve.
For the younger generation, I would say especially to young women, do not let
À la nouvelle génération, je dirais aux jeunes femmes particulièrement de ne pas laisser la société leur dicter ce qu'elles devraient être. Soyez vous-même. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons changer le monde. Parce que si nous ne commençons pas par nous-mêmes, où allons-nous aller ?
Dans son rapport montrant une baisse dans le nombre de cas de femmes et d'enfants forcés de travailler ou impliqués dans le trafic sexuel, le réseau des femmes du Cameroun dit que ces cas sont passés de 275 en 1990 à 150 aujourd'hui. Il fait remarquer aussi que son plus gros défi, c'est de retrouver les jeunes femmes envoyées en Europe par les trafiquants. Justice Prudence Galega est conseillère technique au ministère camerounais de l'Environnement. Pour elle, le facteur le plus important dans cette tendance à la baisse, c'est la réalisation par les femmes qu'elles pouvaient signaler les cas d'abus et de violence. Et elle attribue cette évolution à la 4e conférence mondiale sur les femmes tenue en 1995 à Pékin. Aujourd'hui, poursuit-elle, davantage de suspects ont été traduits avec succès en justice, y compris de hauts responsables gouvernementaux.
Vous conviendrez avec moi aujourd'hui qu'il ne vous est pas facile de prendre une fille de 7 ou 8 ans et de lui payer 5 000 ou 10 000 francs par mois pour s'occuper de vos enfants.
Mais il reste encore beaucoup à faire, disent entre autres des ONG telles que Global Giving, une agence caritative basée aux États-Unis. Selon elle, 2,4 millions d'enfants camerounais continuent de travailler illégalement, surtout dans les maisons d'hommes riches, pour aider leurs familles. Justice Galega assure que les femmes du Cameroun redoublent d'efforts pour relever les défis qui restent.
L'acte de naissance de la zone tripartite de libre-échange, le plus grand marché africain de libre-échange, devait être signé aujourd'hui en Égypte. La zone regroupe 26 États membres de trois groupes sous-régionaux que sont le marché commun des États d'Afrique australe et de l'Est, COMESA, de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, et de la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, soit plus de 625 millions d'habitants et plus de 1 000 milliards de dollars de PIB, soit 900 milliards d'euros. Eddy Sango a joint sur la question un expert de coopération internationale, le dirigeant du groupe de réflexion entrepreneur, Al Kitenge.
Vous vous rendez bien compte que sur la cinquantaine des pays que compte l'Afrique, il y en a déjà plus de 26 qui sont embarqués. Ça montre simplement que c'est irréversible. Les uns vont arriver, chacun à sa vitesse, mais le plus important, c'est l'intérêt qu'il y a. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que ce sera un processus. Ce n'est pas quelque chose qui va se décréter. Ça prendra le temps de se mettre en place. C'est pour ça qu'un certain leadership doit pouvoir être en mesure de se mettre en place pour que nous puissions être en mesure d'harmoniser. Mais tout le monde sait très bien que les besoins réels sont des besoins de gouvernance, de transparence et bien entendu d'harmonisation des textes.
Signer un traité, c'est bon. Est-ce que vous pensez que les Africains sont prêts à s'intégrer pour un tel marché?
Les Africains du XXe siècle sont très différents des Africains du XXIe siècle et aujourd'hui, les barrières ne sont plus raciales, elles ne sont plus physiques, les barrières sont électroniques et tout le monde sait très bien que du point de vue électronique, ça coule très bien. Et je crois simplement aussi que l'Afrique est en train de s'intégrer et qu'on le veuille pas.
Ces traités de libre-échange représentent les trois ensembles qui existent déjà en Afrique, notamment les COMESA, l'EAC et la SADC. Mais on a l'impression déjà que ces groupes minuscules ont du mal à évoluer comme il faut. Et pensez-vous que, mis ensemble, les Africains seront à même de pouvoir bien gérer cela?
Je suis convaincu qu'ils seront à même de gérer cela correctement. Regardez le leadership, le Nigeria et l'Afrique du Sud et les pays du Maghreb vont en assurer bien sûr un leadership pluriel. Et je crois simplement aussi que, ayant vu l'intérêt mutuel, les gens se mettront ensemble pour regarder dans la même direction.
Si on doit faire un diagnostic, qu'est-ce qui a toujours empêché l'Afrique à se mettre ensemble et à s'intégrer?
D'abord, il y a ces deux camps, le camp francophone et le camp anglophone. La deuxième fracture, c'est un petit peu la fragilité de la gouvernance des pays. Et aujourd'hui, tout le monde comprend très bien qu'il est important que les institutions deviennent fortes et pas des hommes. Et je crois que le système politique qu'on avait à l'époque n'était pas favorable à ce que nous soyons en mesure de faire ce qu'on appelle un partage de responsabilités.
Et vous ne pensez pas que la politique ou les politiques africaines auront un impact? Je parle des politiques politiciennes. On voit la résistance de certains chefs d'État, par exemple, des tendances ou la tentation de changer les constitutions pour se maintenir au pouvoir.
Si nous laissons les pays avancer, et ils serviront d'exemple à ceux qui sont en train de résister et pas l'inverse.
En Europe, il y a la Grèce dont le niveau de développement n'est pas celui des autres. Est-ce que vous ne pensez pas que les mêmes problèmes pourraient se poser en Afrique?
Si c'est un agrégat des pays pauvres, ça ne marchera jamais. Et bien entendu, c'est pour ça que le différentiel de richesse est à mettre au bénéfice du fait que nous pouvons avoir les uns qui attirent les autres.
Alki Tengue, Jean à Kinshasa.
À Madagascar, le bras de fer entre le président Héry Rajaonarimampiane et les députés frondeurs se joue maintenant devant la Haute Cour constitutionnelle. Les avocats du chef de l'État malgache ont accusé aujourd'hui ses adversaires de tentative de coup d'État institutionnel pour avoir voté une motion de déchéance contre lui. Les représentants des députés ont fait état de leur côté de 7 violations de la Constitution par le président. Pour un éclairage sur cette crise, Timothée Donangmaï a joint à Antananarive le juriste Georges Ravelson-Odon.
Le président, quand il est venu au pouvoir, il n'a pas un seul député à l'Assemblée nationale. Tandis que l'ancien président de la transition, il a réuni les partisans qui lui ont soutenu pendant la transition. La Constitution prévoit que le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire. Or, la majorité était à géométrie variable, si bien que la nomination incombe au président de la République. Dans les premières élections, c'est les gens du parti MAPAR qui avaient la majorité, ce qui n'arrangeait pas le président de la République, qui a donc manœuvré. Il a pu obtenir une majorité en prenant des alliances auprès des autres entités politiques à l'Assemblée nationale. Cette entité, après, a balayé le président de l'Assemblée nationale de l'époque, qui n'était que le ministre de la Justice de la période de transition. C'est là qu'a commencé les bagarres. Et on a reproché au président de ne pas respecter l'article 54 de la Constitution. Puis après, avec une alliance avec d'autres entités, le président a pu recueillir donc une majorité. Et avec cette majorité, il a nommé un premier ministre.
Comment en est-on venu à ce vote des députés pour évincer le président?
Ce vote, semble-t-il, était entaché d'irrégularités et qu'il y a eu des trucages de la part des députés frondeurs. Ils ont pu ensuite introduire des requêtes auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Les arguments invoqués par les députés frondeurs étaient contestés parce que les gens qui ont voté, semble-t-il, n'avaient pas le nombre requis pour faire passer la motion de déchéance. Toute la question est là. Il appartient à la Haute Cour constitutionnelle d'apprécier et la procédure et les motifs donc de la motion de déchéance.
Quand est-ce que la Haute Cour constitutionnelle va se prononcer sur ce dossier?
Normalement, dans 15 jours du dépôt de la motion, c'est-à-dire ça pourrait intervenir dans les 48 heures.
Le juriste Georges Ravelson Odon, joint à Antananarive.
Nouveau numéro de Washington Forum consacré cette semaine à la question du troisième mandat. S'éterniser au pouvoir en changeant la Constitution est-il un mal africain? Le 21e siècle est-il celui de l'alternance politique sur le continent? Et les Occidentaux doivent-ils imposer leurs pratiques démocratiques aux pays africains? Nous vous invitons à en débattre sur notre page Facebook et rendez-vous ce jeudi dans notre émission 19h temps universel sur VOA Afrique.
Le Vatican a désormais une instance judiciaire chargée de juger les prêtres et évêques pédophiles, et ce, dans le cas des évêques qui couvrent des abus sexuels. La décision du pape François, annoncée ce mercredi, vient renforcer le travail de la Commission pontificale de protection des mineurs. Celle-ci avait d'ailleurs recommandé la mesure. Pour un éclairage, nous avons joint le journaliste Haber Mianzonkuta de Radio Vatican.
D'abord, il faut préciser que nous sommes ici dans une session pleine de travaux de la commission des cardinaux, 9 cardinaux qui ont été choisis par le pape pour le conseiller dans la réforme de la Curie romaine. Et donc, c'est dans le cadre de cette session que la décision a été annoncée de cette commission. La commission, en fait, de protection des mineurs existe déjà depuis un peu plus de 3 mois au Vatican, un peu plus même. Ici, il s'agit de lui donner toute la garniture officielle, toute la garniture qui puisse faire qu'elle joue pleinement son jeu en un mot commençant. Tolérance zéro pour les prêtres et évêques pédophiles au sein de l'Église catholique. Et
cela répond aussi à des plaintes transmises par la congrégation concernant les évêques.
Très certainement, parce que l'un ou l'autre prélat a eu l'impression qu'il y avait comme une espèce d'impunité couvrant pas directement les pédophiles eux-mêmes, c'est-à-dire pas les auteurs des actes pédophiles, mais surtout les évêques et archevêques qui ont été tenus au courant d'un comportement de ce genre dans leur diocèse et qui ont eu jusqu'ici une attitude assez généralisée, celle de couvrir, sinon de fermer un œil, pas tous les deux, donc sur ces abus et de ne pas les dénoncer. Aujourd'hui, donc, les choses sont plus transparentes. Un évêque tenu au courant de cela doit saisir la justice, d'abord la justice civile de la juridiction dans laquelle il est établi et ensuite en avertir le Vatican qui fait agir donc l'instance, la commission de protection des mineurs.
Quand le droit canon entre en jeu, à quelles conséquences font face les éventuels coupables?
Alors, deux niveaux de sanctions. Il y a d'abord l'évêque qui, tenu au courant, a voulu à tout prix, j'allais dire, mettre le coude sur un dossier aussi scabreux. À ce moment-là, celui-là, il est rappelé à l'ordre ou alors carrément démis de sa fonction. Mais je pense que la sanction ne pourrait pas aller jusqu'à ce niveau-là. Par contre, il n'est plus question de parler d'un prêtre, d'un évêque lui-même impliqué dans les abus sexuels. Là, maintenant, la règle, la norme en vigueur depuis le pape Benoît XVI, c'est la mise à l'écart pure et simple.
Et ces coupables présumés pourront être poursuivis au pénal?
Bien entendu. Et d'ailleurs, je crois qu'une des normes justement révolutionnaires édictées par le pape Benoît XVI était que l'évêque ou le prêtre ou l'autorité ecclésiastique le plus au courant des faits était tenu de se mettre à la disposition de la justice pour l'éclairer, donner toutes les informations sans en cacher aucune.
Le journaliste Haber Mianzonkuta de Radio Vatican.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Cette édition touche à sa fin. On remercie Yemi Obajimi qui a assuré ce soir la mise en onde, assistée de Alfredo Santos à la console. Présentation Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Les infos dans moins d'une minute.
Les infos.